Bonjour. Des magazines qui parlent de nourriture, de cuisine, de bouffe, il y en a quelques-uns, presque autant que des podcasts qui parlent de vin. N'étant pas moi-même très fin cuisinier, j'avoue ne pas vraiment y prêter attention. En outre, plusieurs de ces titres sont tout simplement des déclinaisons de magazines féminins, s'adressant presque exclusivement aux femmes, donc, et nous rappelant la regrettable réalité. Dans beaucoup de foyers, les hommes mangent, oui, mais ce sont les femmes qui cuisinent. D'autres titres magnifient les grandes tables et glorifient les grands chefs, hommes et femmes, invitent le lecteur à les imiter dans une recherche de la performance culinaire façon Top Chef qui, si elle m'impressionne souvent, ne m'intéresse toujours pas. Et puis, on m'a mis entre les mains un nouvel objet éditorial. Beau mais pas clinquant, non genré évidemment, et qui tend, lui, à considérer la cuisine non comme une simple façon de se nourrir ou d'épater la galerie, mais comme un sujet de société à part entière, traité par l'angle de la culture et ancré dans son époque. Le titre de cette revue, La grenouille à grande bouche, parrainée, excusez du peu, par l'excellent François-Régis Gaudry, homme de micro et de goût s'il en est. Exemple, avec le numéro de mai à juillet 2021, oui, c'est une revue trimestrielle, qui met en avant les voyages et dans laquelle vous trouverez pêle-mêle des sujets sur la culture des épices à l'île de la Réunion, l'histoire des cuisines de diaspora, des bagels new-yorkais à la pizza napolitaine devenue le plat mondialisé par excellence. Ancré dans son époque, je le disais, la grenouille se fait aussi l'écho du combat des livreurs dont le nombre s'est multiplié avec l'explosion des plateformes numériques et qui cherchent contre vents et marées à se doter d'un vrai statut. Et puis, comment ne pas mentionner la double page consacrée au vin ? Dans ce numéro 9, il s'agit d'agroforesterie et le papier est signé de l'ami Bertrand, habitué de la terre à boire, qui signe aussi avec son camarade Thomas du podcast La Grosse Bouffe un article sur l'Auvergne. Beaucoup d'autres choses passionnantes à lire dans La Grenouille à grande bouche que je vous propose de découvrir par vous-même. C'est vendu au prix de 13 euros, ce qui n'est pas cher pour 114 pages de contenu de qualité, sans aucune publicité, cela va de soi, et on la trouve dans toutes les bonnes librairies. Tant que vous y êtes, allez voir leur site internet, vous découvrirez qu'il s'agit en plus d'un projet participatif auquel vous pouvez même apporter votre contribution. Longue vie à la grenouille, je m'abonne de ce pas. Ce 78e épisode s'intitule « Le gel ou comment passer le printemps ?» Bienvenue dans la Terre à boire. Et on se retrouve en studio avec Florence Saragoni. Bonjour Florence.
Bonjour.
Avec Patrice Defay. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Et avec Laurent Delceau. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Ça va, je sens les restaurateurs qui sont prêts à dégainer les couverts, les verres et accueillir les clients. C'est ton cas, Florence. Ça va bientôt reprendre. Toi, Laurent, ce sera peut-être plutôt à la fin de l'été.
Oui, le Wine Therapy rouvrira le 31 août.
Voilà, on va laisser le temps aux touristes de divers horizons de revenir, de retrouver la capitale.
Et aux Parisiens d'avoir envie de s'enfermer dans un lieu plutôt que de rester en terrasse.
Alors aujourd'hui, je l'ai dit dans le titre, on va parler d'un thème qui est plus complètement d'actualité si on diffuse cet épisode en juin, mais qu'il a été énormément au mois d'avril, et c'est là qu'on a décidé qu'il fallait décidément s'attaquer à ce sujet, le gel. C'est un peu, j'imagine, peut-être le premier volet d'une série qu'on fera sur les périls de la vigne, parce qu'ils sont nombreux, il y a les champignons, les maladies, la sécheresse, donc ça c'est dans la famille climat, on trouve aussi la sécheresse, et le gel. Et mine de rien, en creusant un peu cette pelote, il y a pas mal de choses à dire. Avant de rentrer dans ce sujet-là, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. Mais là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On va commencer par boire un petit vin parce que voilà, on avait soif. Et c'est toi, Laurent, qui nous a apporté ce vin. Et ensuite, on attaquera notre sujet du jour. Quel est ce vin blanc qui est dans nos verres ?
Bon, un cépage que je crois nous apprécions à peu près tous autour de cette table. On est sur un chenin. En fait, il y a une dizaine de jours, l'appellation Chinon organisait un événement qui était ce week-end chez Vigneron. Donc tous les domaines, enfin une grande partie des domaines de Chinon faisaient porte ouverte à l'occasion de l'Ascension. Et j'y étais et j'ai découvert un domaine qui s'appelle la Noblet. Donc il y a la particularité d'être au sud de Chinon, sur la rive sud de la Vienne. Et donc, j'ai découvert un magnifique domaine. Il faisait en plus très beau au moment où nous y sommes allés. Et donc, parmi les cuvées que j'ai appréciées, donc, il y a cette cuvée qui s'appelle Chante-le-Vent. Donc, 100% chenin, comme tout vin blanc sous appellation Chinon. Et un vin qui est allé directement en cuve inox. donc qui est vraiment sur la fraîcheur, qui est sur des notes d'agrumes, très très facile à boire, très agréable. Enfin, je vous laisse peut-être...
Pas du tout de bois donc, hein,
sur ça. Pas du tout de bois, non.
D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça parfait pour commencer, hein, hyper rafraîchissant, et puis voilà, un petit chenin qui fait du bien. Patrice?
C'est effectivement assez frais. Moi, je sens pas mal. Alors, c'est peut-être l'heure qui fait ça, hein, parce que là, on est à 16h et un petit verre de blanc. C'est vrai que c'est assez riche à cette heure-là. Mais je trouve ça, oui, très, très, très bien, très agréable. Je sens pas mal d'alcool quand même. Alors, je sais pas combien il est d'alcool. Maintenant, effectivement, c'est ma première sensation. Et après, on reconnaît bien, effectivement, le côté chenin avec l'amertume en fin de bouche. Donc, il y a pas mal de longueur. On sent assez bien le côté terroir. Et donc, oui, on est dans un chenin plutôt travaillé en droiture qu'en beaucoup de boisé. Donc, c'est vrai que c'est plutôt agréable et assez droit et assez pétillant en bouche.
En fait, il y a beaucoup de maturité sur les raisins. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, à la Noblet, ils passent dans les vignes jusqu'à 4 fois. Pour récolter les grappes, puisqu'en fait c'est une vendange grappe par grappe et non pas parcelle par parcelle comme ça on peut le voir la plupart du temps.
Ils passent 4 fois sur le même pied de vigne.
Ils peuvent passer 4 fois dans la même parcelle pour s'assurer. Bon, il faut savoir que le domaine de la Noblet, c'est vraiment quasiment un seul tenant, hein, autour de la cave. Donc ils ont un accès direct à leur parcelle, ils sont en permanence dedans et donc ils ont ce travail très très minutieux, très attentionné sur leur raisin.
Écoute, résultat enthousiasmant et bien agréable. C'était le coup de cœur du moment de Laurent. On va pouvoir aborder notre sujet. C'était difficile de trouver un vin qui serait l'illustration de la question du gel. Hein. Donc bon, on est parti sur un vin qui allait nous faire plaisir. Merci pour cette découverte, Laurent. Le domaine de la Noblet et Chantelevent. Chantelevent, il y a peut-être un petit rapport parce que le vent, Patrice, pour lutter contre le gel, ça peut aider quand même. Hein.
Ouais, tout à fait. Alors, si on aborde le thème du gel, hein, c'est ça. J'ai la question.
Attends, tu sais quoi, je vais accueillir Mathilde qui est au téléphone et qui nous entend. Bonjour Mathilde Lassus.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, tu es vigneronne et tu es vigneronne au domaine de Plaisance dans le Gers, la ferme de Romane. Et on t'a appelé pour parler du gel parce que tu as écrit un papier, tu as répondu à une interview, tu as participé sur un groupe Facebook. Je ne sais pas trop exactement quel est le fil, mais on retrouve facilement les éléments que tu as postés au mois d'avril quand tout le monde était confronté au gel. Et c'est ça qui nous a donné envie d'échanger avec toi sur ce sujet, sur les méthodes que tu as mise en place, toi, dans ton domaine pour lutter contre le gel. On va écouter Patrice faire un petit peu le tour du sujet, et puis ensuite on rentrera dans les actions que toi, tu as menées dans ton domaine. Vas-y, Patrice. Le gel.
Donc le gel,
tu
oui.
Tu as 2 heures.
Grand
pas
thème.
Du tout.
Oui, ben, le gel déjà, ben, il peut se produire à différents moments de l'année, en automne, en hiver ou au printemps. On parle assez peu des gels d'automne et de printemps, mais enfin d'automne et d'hiver. Mais s'il y a un gel en dessous de -15 en hiver, on peut avoir des problèmes de mortalité sur les souches. Donc le gel, c'est un problème un peu plus global que ça. Maintenant, celui qui pose problème, c'est le gel de printemps, qui a donc fait beaucoup parler cette année, puisqu'on estime à peu près à 50% de la production perdue en raison du gel là, cette année, donc pour le millésime 2021.
Sur toute la France ?
Sur l'ensemble de la France en moyenne, on estime
50%.
À 50%. Oui, tout à fait. Et sur certains domaines, notamment Sud-Ouest et Languedoc, qui ont été particulièrement impactés. Il y a certains domaines qui sont touchés à plus de 80%. Donc c'est quand même un problème considérable pour les vignerons et cette année. Alors après, est-ce que donc le gel de printemps, qu'est-ce qu'il y a comme gel? Bon, on a 2 types de gel, ce qu'on appelle les gelées blanches. En gros, la gelée blanche, c'est la couleur de l'humidité. Donc ça veut dire que c'est un gel avec humidité. Mais la plus embêtante, en fait, le plus embêtant des gels, c'est plutôt ce qu'on appelle les gels noirs, puisque c'est sans humidité. Et quand il n'y a pas d'humidité, c'est encore plus perturbant pour le bourgeon. Et après le gel, on a 2 typologies de gel. Le gel qu'on appelle radiatif, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire c'est quand on a froid, qu'il n'y a pas de nuages et que donc du coup le rayonnement terrestre n'est pas bloqué par les nuages et donc le froid stagnant reste sur les sols. Et donc ça c'est le radiatif. Et puis on a ce qu'on appelle un plus techniquement l'advectif, qui à un moment, enfin c'est un grand vent de froid qui intervient sur un domaine ou sur une parcelle. Donc ça c'est plus rare. Et pourquoi le gel pose problème? C'est simplement lié au Enfin, simplement, c'est lié notamment, parce que c'est des éléments assez complexes, au cycle végétatif de la vigne. Pierre Auvernois, qu'on a rencontré, avec qui on a discuté il y a quelques années, a mis tout les 29 juin sur des dizaines d'années la maturité des différentes grappes. Le 29 juin, bah, c'est un bon marqueur, parce que c'est à peu près le milieu du cycle végétatif de la vigne. Ce qu'il faut savoir, c'est que on vendange de plus en plus tôt. On parlait de mi-octobre il y a encore 30 ou 40 ans. Là, on parle de fin août. Or, la vigne, le cycle végétatif, c'est toujours 100 jours. Entre le moment de la floraison, c'est-à-dire le moment où sort la fleur du raisin, et le moment des vendanges, c'est toujours 100 jours. Si vous avez une vendange plus tôt, bah, ça veut dire que la vigne est en floraison plus tôt, donc plutôt en mars qu'en avril ou mai. Et donc, si elle est en floraison en mars ou mai, bah, y a plus de chances de gel de printemps, puisqu'on sait qu'il faut passer les fameuses saintes glaces, 9, 10 et 11 mai, pour être sûr qu'on n'ait plus de gelée, en tout cas en France. Et donc, les périodes de gel sont liées à l'avancement du date de déflorement de la mise en floraison de la vigne.
Oui, voilà. C'est ça. En fait, pour résumer, c'est pas qu'il gèle plus, c'est que la vigne, du fait du réchauffement général, mûrit plus vite et donc se retrouve exposée au gel. Je crois qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, mais le sujet, il est principalement là, parce que la vigne est plus fragile au moment où il fait encore très froid.
Ce qui va geler, en fait, c'est notamment soit la partie feuille, ce qu'on appelle le débourrement, soit la partie fleur, ce qu'on appelle la floraison, ça, plus c'est tôt, plus on a des chances d'avoir encore une fois du gel avant début mai.
Effectivement, c'est de plus en plus tôt, parce qu'on a des hivers qui sont très peu froids finalement, et des montées en température qui sont de plus en plus précoces, on se trouve avec des mois de mars voire février où on a des grands soleils, et on envoie donc des signaux à la vigne, enfin la nature envoie un signal à la vigne comme quoi ça y est, c'est le printemps qui arrive, donc il est temps de réactiver la sève et d'activer le cycle végétatif, d'accélérer ça, et donc les bourgeons commencent à sortir effectivement, et malheureusement on est encore dans une période où il peut y avoir du gel, et cette année le gel a été très très violent, et aussi fait assez extraordinaire qui a intéressé particulièrement tous les médias, c'est que c'était généralisé sur la France. En général, on se limite à des régions typiques plutôt septentrionales comme la Champagne ou la Bourgogne, en particulier Chablis. Chablis est quand même souvent sujet à ces phénomènes de gel. Mais là, on a vraiment vu ça partout et ça a un peu désespéré tout le monde.
Florence, tu confirmes, vous, que, enfin, Florence, qui est en contact régulièrement avec des vignerons, c'est une année particulièrement dure?
Oui, c'est une année très compliquée, parce que justement, il a fait tellement beau et tellement chaud que les bourgeons sont sortis très tôt. Et en fait, il y a eu le retour de bâton avec les températures qui sont descendues très très vite, très très basses, et un froid très sec. Comme disait Patrice, pas d'humidité pour essayer de sauver un peu les choses.
Et je pense aussi, le retour que j'ai, c'est qu'on a vraiment eu plusieurs nuits d'affilée. Quoi. Il y a eu un phénomène de longueur de ces gels qui est rarement vu et qui épuise nerveusement et physiquement les vignerons qui s'attachent à essayer de préserver leur récolte. Parce que bon, ils ne restent pas les deux pieds dans le même sabot quand ils voient les menaces de gel se présenter. On a quand même cette chance aujourd'hui d'avoir des outils qui permettent d'anticiper les gels. Donc il y a des techniques qui sont mises en place pour essayer de limiter ces effets du gel. Mais là, la particularité, c'est effectivement que nuit après nuit, il fallait retourner sur le front pour essayer de sauver les bourgeons.
Mathilde, comment tu as vécu, toi, cet épisode? Je précise, tu es une jeune vigneronne, tu as 28 ans, si je ne me trompe pas. Mènes ton domaine depuis déjà plusieurs années. Comment tu vis chaque année cette période-là du mois d'avril, un peu le mois de tous les dangers, et comment tu l'as vécu particulièrement cette année?
Cette année, quand on a vu ce qui s'est passé, on s'est précipité pour essayer de faire ce qu'on pouvait, quoi, avec nos moyens. Parce que le chardonnay, en fait, c'est une parcelle qui gèle énormément, surtout en ces périodes de l'année, parce qu'elle est dans une cuvette, et c'est une vigne où on a vu plus qu'à presque 100% de dégâts certaines années. Cette année, on l'avait taillée, on était encore là, en train de finir de la tailler quand le gel est arrivé. Et on avait remonté de 60 cm les baguettes parce qu'on avait vu que sur les vignottes, elles étaient beaucoup moins sensibles par rapport au gel. Et du coup, on a fait ce pari-là, on a tout monté d'un coup. Et la partie qui n'avait pas été finie de tailler et où on n'avait pas pu mettre de la préparation biodynamique, cette partie-là a eu 60% de dégâts. Et là où dans la cuvette, on a eu entre 10 et 20%, enfin 15%, 10 et 15% de dégâts. Et là, elle a bien repris, mais c'est pas le gel le problème qu'il y a actuellement, mais c'est le problème qu'on a en ce moment, c'est pluie et froid.
Ouais.
Et il commence tout juste à refaire beau, mais voilà, c'est surtout ça qui nous inquiète actuellement. Mais voilà. Par rapport au gel, ça a été impressionnant. Je crois que ce qui l'a sauvé, c'est vraiment le fait de l'avoir monté plus haut, quoi.
Alors, on va parler justement des actions que tu as menées. On a vu spécifiquement, je veux dire, au domaine, cette histoire de vigne haute. Il y a plusieurs pistes que tu donnes également qu'on va essayer de détailler. On a vu, notamment sur les réseaux sociaux, hein, cette année, moi, j'en avais jamais vu autant, tout un déploiement de bougies dans les vignes, il y a même eu des hélicoptères pour brasser de l'air et limiter le gel. Donc on avait l'impression, notamment en Bourgogne, hein, d'un déploiement d'énergie phénoménale de vignerons qui essayaient de sauver leur récolte. C'est quoi les différents axes qu'on voit communément, Patrice?
Alors, après, la vigneronne, qui est Mathilde, me
oui,
corrigera.
Il va compléter, corriger,
ouais,
bien
voilà,
sûr.
Mais globalement, quand il gèle, quand il fait en dessous de moins 6 ou moins 7, on peut rien faire. C'est-à-dire que toutes les méthodologies qu'on peut trouver, alors c'est quand même assez rare en avril d'avoir en dessous de moins 6 et moins 7, mais globalement, on peut agir entre moins 2 et moins 6, moins 7. Et là, je dirais, il y a deux approches. Il y a les approches qu'on pourrait appeler conventionnelles ou réactives, qui sont toutes celles qu'on voit classiquement avec les hélicoptères, puisqu'encore une fois, c'est l'air froid qui stagne, qui pose problème, donc on brasse l'air. Il y a les bougies, il y a les éoliennes mobiles, il y a les bâches. Donc ça, c'est tout un tas de pratiques, on va dire, agrologique, agronomique, pour lutter contre le gel quand il arrive. Et puis, je pense que Mathilde est plutôt sur des. Il y a plutôt un certain nombre de méthodes un peu plus systémiques, on dirait ça comme ça, ou de un peu plus passives ou un peu plus préventives, qui sont effectivement soit de faire des choix d'implantation des parcelles plutôt sur les coteaux que sur des cuvettes, qui sont le choix du matériel végétal. Il y a certains cépages qui sont moins enclins à subir le gel que d'autres. Il y a effectivement la hauteur du port de la vigne par rapport au sol. Voilà, il y a des techniques d'homéopathie, on va dire ça comme ça, de traitement, notamment avec de la valériane. Donc voilà, donc il y a deux grandes familles. Il y a celles qu'on voit souvent à la télé qui sont les traitements, je dirais, spectaculaires à base de bougies, d'hélicoptères. Et puis il y a les méthodes un peu, entre guillemets, un peu plus douces, qui sont celles que je crois que pratique Mathilde.
Mathilde, toi, tu n'as pas allumé de bougies dans tes vignes?
J'ai pas mis de bougies, non.
On peut rappeler que c'est des budgets considérables, hein, pour voilà, essayer de protéger un hectare de vigne. Ça coûte une fortune.
Voilà, ça coûte excessivement cher. Ouais.
Une année, j'avais fait brûler des bottes de foin, enfin de paille. On les avait bien positionnés par rapport au vent, et quand on les a allumés, le vent a tourné, donc ça ne servait strictement à rien.
D'accord. Moi, j'ai noté quatre axes. Le premier dont tu as parlé, la taille haute, relever les sarments et les attacher un peu plus haut pour les protéger du froid. Il y a également l'enherbement.
Oui. Alors, on a relevé les vignes de 60 cm plus haut. Juste la baguette, et après toutes nos vignes sont en arbement, enfin elles sont là, elles ont le chardonnay par exemple a été semé un rang sur deux en couverts végétaux, fèverolles, seigle. On voulait le faire sur tous les rangs, mais on a eu un souci avec le relevage du tracteur qui s'est cassé, donc on l'a fait que un rang sur deux du coup. Et le reste c'était enherbé naturellement du coup. Et après, après on met des préparations biodynamiques. Et là, ça c'est nouveau, c'est ce qu'on a. Enfin, c'est on fait ça depuis cette année en fait. C'est de la valériane et on pulvérise ça. Enfin, c'est des petites doses homéopathiques et en fait ça a un effet d'apaiser et de protéger la plante, quoi. Et éventuellement de réchauffer, mais c'est pas encore trop prouvé scientifiquement, mais voilà.
Est-ce qu'on sait précisément l'effet de la valériane? C'est-à-dire, ça fait quoi? Ça réchauffe la plante de l'intérieur? Ça la déstresse par rapport à l'arrivée du gel? Ça la détend, en fait? Enfin, c'est quoi son action concrète? Est-ce qu'on sait le mesurer, l'identifier?
En fait, la valériane a une propriété, c'est connu comme une plante médicinale d'apaiser. Et après, comme on le dynamise dans de l'eau chaude et tout, ça absorbe un peu la chaleur de l'eau et ça rediffuse la chaleur et ça protège. Enfin, c'est quelque chose d'assez un peu compliqué à comprendre,
C'est un peu
mais.
empirique.
Ouais, un peu, on va dire ésotérique si on veut, mais chez nous ça a marché, donc voilà. Moi, mes beaux-parents font ça depuis 30 ans sur leur vigne et ça a toujours fonctionné. Ils ont toujours eu des vignes protégées et saines, donc du coup on a essayé ici dans le Gers et ça marche, quoi.
Je crois qu'il y a aussi une pratique qui est celle de la taille douce.
Oui.
Ça consiste en quoi?
Alors ça c'est avec Marceau Bordarias qu'on a appris cette taille. C'est un peu comme la taille Guyot-Poussard. Je sais pas si vous connaissez. mais ça permet, enfin cette taille favorise le flux de sève en fait. Donc on évite de faire des plaies trop profondes. On taille pas à ras en fait et on taille sur les bourrelets. Et on favorise du coup le flux de sève et toujours les plaies de taille sur le dessus et le bas c'est une nouvelle baguette en fait. Enfin, je sais pas trop comment l'expliquer.
Non, mais on suit à peu près. Je crois que la taille douce, ça protège aussi des attaques d'escargots, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Alors, faudrait faire une émission à part entière sur ce sujet-là.
Un autre péril de la vigne.
Ouais, dans la taille, je crois qu'un des moyens de lutter aussi un peu contre le gel, c'est d'avoir une taille assez tardive. Encore une fois, dans le cycle de la vigne, plutôt, on va dire mi-fin mars, pour justement retarder un petit peu le cycle végétatif de la vigne pour qu'elle démarre un peu plus tard. Après, une des difficultés, c'est pas tout à fait la même chose que dont parle Mathilde, mais une des difficultés, c'est que ça demande beaucoup de manœuvres, il faut du temps. Donc, c'est pas évident de tailler tout sur une période tardive. Donc, je pense qu'après, l'ensemble des pratiques, c'est un équilibre de manière générale entre le temps qu'on a, le budget qu'on peut y mettre. Hein, encore une fois. Toutes les méthodologies, hélicoptère, éolienne mobile, bâche, etc., ça a un fil chauffant, ça a un coût élevé. Il faut voir le risque en face pour pouvoir choisir de mettre en place ces techniques ou pas. Mais la taille a aussi une réflexion, je crois, pour tailler un peu plus tard et pour retarder le démarrage, on va dire, de la vigne.
Et les couverts végétaux, ça ne pose pas de problème de concurrence avec la plante
Ah non, pas du tout. On n'a pas. Ça fait 8 ans qu'on met des couverts végétaux et on n'a pas eu de soucis de ce niveau-là. Après, il faut savoir aussi qu'on favorise les sols vivants, quoi. Enfin, les micro-organismes, la vie du sol. On fait tout dans ce sens-là et du coup, à partir du moment où on a un sol vivant, il y a beaucoup moins de concurrence parce que l'eau est mieux filtrée. Il y a les micro-organismes et les nutriments qu'il faut pour tout le monde, quoi, en fait. Et c'est plus entre guillemets, une symbiose et une biodiversité qui se crée qu'une concurrence.
Et tu dirais que cette symbiose protège aussi de l'événement climatique, du gel, des températures qui descendent?
Oui, enfin ça, pour moi, ça protège le sol, ça protège le sol aussi bien de la chaleur que du froid. Alors certains, enfin pensent que ça apporte plus d'humidité. Après, moi, je pense vu qu'on a remonté les vignes, ça a beaucoup moins d'impact. Vu que la vigne est plus haute, l'humidité de l'herbe qui pourrait y avoir, enfin du coup, on n'a pas eu de je pense, de soucis par rapport à ça, quoi.
Ouais,
Après, si on aurait laissé les lignes plus basses, peut-être qu'il y aurait eu plus d'impact, je sais pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui avaient découvert et qui ont été isolées, mais je sais pas.
j'allais te demander ça par rapport à tes voisins. J'imagine que vous communiquez
Alors.
Entre vignerons dans le Gers. Comment ça s'est passé à droite à gauche? Vous partagez ces expériences?
Par rapport à mes voisins, par exemple, eux, ils sont en conventionnel, donc il n'y a pas une herbe qui dépasse. Et la vigne qui était collée à la nôtre, ben lui, il a eu beaucoup plus de dégâts. Il a eu du 50 à 80% de dégâts, alors que la nôtre, qui était en vigne haute et pas du tout taillée, a rien eu, quoi. Et il y avait de l'herbe, je sais pas, elle était déjà à presque un mètre, quoi.
Est-ce que ça les fait réfléchir sur la pratique justement conventionnelle versus une pratique d'une voisine voilà, qui fait du bio et qui essaye justement d'encourager la diversité du sol?
Mais notre voisin, juste après l'épisode de gel, il avait été impressionné que ben, le chardonnay là qui est dans la cuvette avait pas été gelé, contrairement aux années précédentes, alors que c'était quand même une forte gelée. On a eu quand même du moins 6, moins 7. Et ça l'a fait réfléchir aussi sur ben, le fait de peut-être remonter ses vignes, les prochaines tailles, et d'essayer de ce système-là de monter les vignes. Après, de là à mettre de l'herbe, il n'en est peut-être pas encore là, mais
Mon Dieu.
voilà.
Alors, tu as évoqué quelque chose, on va finir là-dessus, parce qu'au-delà du gel, et c'est ce que tu nous disais, Florence, quand on a commencé à discuter de ce point, après le gel, le mois de mai, certes, les températures sont remontées, mais on a un mois de mai extrêmement pluvieux, ce qui pose un autre problème.
Tout à fait. Hein. Bah, ouais, là, bah, on a commencé les traitements et tout, mais la vigne, elle végète, elle est pas. Bon, après le gel, elle est bien repartie, mais là, avec la pluie et le froid, elle a du mal à continuer de pousser, quoi. Donc, ça nous inquiète un peu par rapport à ça, quoi, parce que, bah, on sait pas trop le temps, s'il va se réchauffer, s'il va arrêter de pleuvoir, si, voilà. Donc là, on voit. Enfin, là, c'est la première fois que ce temps, enfin le climat cette année est assez
Épouvantable.
compliqué. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, en espérant que ça passe.
Oui, parce que je disais que si les pluies continuent et qu'on a la floraison et qu'il pleut pendant la floraison, on va avoir le problème de la coulure.
Ah oui, ben là, en ce moment, elles sortent pas, les abeilles. Enfin, moi, j'avais des ruches là, et d'ailleurs, après le gel, il y avait plus d'abeilles du tout, alors qu'avant le gel, on a eu des chaleurs immenses. Elles avaient même commencé à s'aimer et tout, alors que c'était hyper tôt dans l'année. Et là, il y a eu le gel, et depuis le gel, je les vois plus sortir, et je pense enfin, j'ai pas encore été aller voir, mais je crois qu'elles sont mortes. Et là, actuellement, même celles du voisin, elles sortent pas trop, quoi. Et donc c'est un peu compliqué, quoi.
Bon, alors du coup, comment se présente ce millésime 21?
On verra ce que ça donne, en espérant qu'il puisse avoir un peu de raisin quand même. Ce serait bien.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour sauver le millésime là comme condition sur les 2-3 mois qui viennent? Idéal.
Du soleil, on va vous souhaiter dans le Gers et partout ailleurs, ben voilà, le retour du soleil. Merci beaucoup Mathilde pour ces explications. Je renvoie vers, on trouve facilement cet article, donc notamment sur un site qui s'appelle Triple Performance, qui est assez passionnant, qui vraiment rentre dans le détail des actions que tu as menées dans tes vignes. À la ferme de Romanne, au domaine de Plaisance, donc dans le Gers. Alors, exceptionnellement, on a un invité, mais on n'a pas le vin de l'invité à déguster parce que, en fait, c'est une petite production. Tu vends surtout localement, c'est ça?
Oui, localement, oui, c'est ça, sur les marchés et à la ferme. Et voilà, après, des épiceries affines à Toulouse. Enfin, voilà. Pour le moment, sur Paris, on n'a pas encore de caviste ni d'épicerie. Peut-être un jour, mais pour le moment, non.
Écoute, à nos auditeurs et auditrices de Toulouse et de la région, ben voilà, allez déguster les cuvées du domaine de Plaisance en écoutant cette émission. Merci beaucoup Mathilde Lassus et bon courage alors pour ce millésime 21 qui est mal parti et on espère que voilà que vous arriverez à en faire quelque chose.
Merci.
Merci beaucoup, au revoir. Bon, c'est quand même une drôle d'année. Après le gel, la pluie, ça va être assez catastrophique. C'est toi, Florence, qui nous disais, certains vignerons se demandent s'ils vont même aller récolter quoi que ce soit.
Ceux qui ont fait 80% de gel, et si le temps continue à pleuvoir comme ça, en se réchauffant, mais avec la pluie, donc si on a la coulure, donc l'absence de pollinisation des fleurs, donc moins de baies de raisin sur les grappes de raisin, il y en a beaucoup qui se posent la question de est-ce que ça va valoir le coup d'employer des vendangeurs pour aller récolter 2 grappes par pied et en plus 2 grappes où il y aura la moitié des baies de raisin dessus.
C'est un peu les 7 plaies d'Égypte là en ce moment pour le vignoble.
Donc plus que les criquets.
Exactement.
Bon, c'est le vignoble mais c'est aussi toute la production fruiticole. Hein. Je pense que cette année manger des fruits français ça va être aussi compliqué que de trouver du vin. Bon, l'avantage du vin c'est que on peut le stocker, qu'il y a quand même encore beaucoup de vin chez les vignerons du fait de cette année noire du Covid aussi, hein, où l'écoulement des vins s'est pas fait de la même façon, différemment, et pas en volume de la même façon, de toute façon. Mais oui, ça se présente pas très très bien.
Alors pour terminer, on va quand même se boire un deuxième vin, c'est notre habitude. Tu as choisi, Laurent, c'est toi qui as fourni les 2 vins du jour. Un vin quand même, du Gers, de la région de Mathilde, même si ça n'est pas son vin.
Exactement, l'idée c'était de proposer un vin du Gers. Donc on est en IGP Côte de Gascogne, on est sur un rouge. Donc c'est une région qui est très connu, en tout cas pour la plupart des consommateurs, quand on parle de Gascogne.
On pense à Tariquet.
On pense à Tariquet ou à Uby, mais on pense rarement à des domaines qui travaillent en bio et qui font des choses plus, on va dire, vertueuses. Là, c'est un domaine qui travaille en bio, qui s'appelle le domaine CEAI, qui est dans le Gers à Mouchamp. Donc, ils sont en bio depuis une bonne vingtaine d'années. On est sur une cuvée qui est 100% Cabernet Sauvignon. On est sur un millésime particulièrement chaud, hein, comme vous pouvez le constater probablement, avec les fruits qu'on a, qui sont quand même très très confiturés à mon...
C'est très mignon, ouais. J'aurais pas dit Cabernet Sauvignon comme ça, spontanément, avec cette maturité-là, quoi.
Voilà, on est vraiment sur...
Le poivron a pourri, là.
Oui, il n'y a pas de
poivron.
Il n'y a pas de végétal.
Non, il n'y a pas de poivron.
Pas de végétal, on est vraiment sur de la confiture. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Bah, il y a un élevage, comme vous pouvez le sentir, en fût de chêne, qui dure à peu près 12 mois. Et après, on affine l'élevage en cuve béton pendant quelques mois pour finaliser le vin. Voilà, je pense que vous pouvez le constater, c'est un vin. Bon, c'est la belle cuvée du domaine, hein, c'est celle qui est le plus travaillée et qui demande normalement à rester en cave un bon moment. Là, c'est un chouïa tôt, à mon sens, pour.
Ça reste agréable à boire. Il faudrait manger quelque chose, je pense, avec ça.
Oui, je vous ai pas choisi un vin de copain, là. Hein. On est sur quelque chose d'assez puissant.
Avec mais en même temps, le côté un peu, pas dire vert, mais le côté jeune compense un peu le côté un peu mature. Donc finalement, je trouve que ça lui donne un peu d'équilibre, cette jeunesse-là, en tout cas en termes de muscles.
Il est quand même de l'attention.
Oui, ouais, exactement.
Donc c'est une région qui produit aussi beaucoup d'armagnac, hein, comme vous le savez, le Gers. Donc c'est un domaine qui travaille aussi bien les vins que l'armagnac. Florence, tu veux...
Oui, non, j'étais un peu d'accord avec Patrice. Le fait qu'on est dans la jeunesse et qu'il y a un peu de fruits, ça lui donne un peu de gourmandise. Mais c'est vrai que sur l'accord, on a envie d'une viande grillée, là.
Oui.
C'est un vin qui appelle l'apéro, effectivement. Pas l'apéro, le barbecue, pardon.
Tu l'as dit,
le premier, c'était l'apéro, et puis celui-ci, c'est plutôt le barbecue.
Ce que j'ai aimé dans le premier, que j'ai pas eu le temps de dire, c'est j'ai trouvé de la fleur de sureau. Et ce côté très floral, très délicat, sur le premier nez, tout de suite, parce que comme tu m'en as servi un petit peu pour goûter, était très chouette, ça m'a bien plu.
Alors, ça me permet de résumer. Le premier vin, c'était un chinon du domaine de la Noblet, qui s'appelait Chante-le-Vent. Ça, c'est
tout
le nom de la cuvée. Et ceci est un IGP Côte de Gascogne. Tu vas nous rappeler le nom du domaine.
Donc, le domaine CEAI, et la cuvée s'appelle l'Orfeo.
CEAI, comment c'est
CEAI, S-E, accent aigu, A-I-2-L-E-S.
D'accord, CEAI,
pardon.
Et c'est dans le Gers.
Ouais.
Merci à tous les trois, Florence, Patrice, Laurent. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Terre à Boire. Le gel, on a essayé d'en faire le tour. Il y a d'autres périls de la vigne, je le disais. On essaiera d'y revenir régulièrement, c'est quand même intéressant, et surtout d'échanger avec les vignerons sur la façon dont ils combattent ces périls, ces dangers. C'est une plante fragile. Pour pouvoir arriver à produire ces belles choses-là, il faut en prendre soin toute l'année. Merci de nous écouter, merci de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On poste pas beaucoup, on poste un petit peu. Et on se retrouve très vite. À bientôt, ciao.